Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence, Marie.
Eh bien, puisque c'est le dernier JRA de l'année 2019, Mathilde, et puisque Noël approche, eh bien, je vous ai préparé une revue de presse, pas très originale, j'avoue, version fête de fin d'année, du coup. Eh bien, avec, comme lors d'un repas de Noël en famille, des oncles grincheux et réac, un retour sur les bons moments de l'année passée, des débats houleux et des anecdotes croustillantes, quelques idées et une pincée d'analyse sur une année chaotique et mouvementée.
Super, j'espère qu'il y aura des marrons chauds.
Tu crois pas si bien dire.
Alors, à la table de Noël, comme à la une des journaux, on va forcément parler retraite, non ?
Alors, bon, pour commencer, impossible d'y couper, et ce sera sûrement l'occasion à la table du réveillon de susciter des débats entre vos aïeux boomers et votre génération. Dans sa chronique pour l'Obs, Natacha Tatou dénonce la fin de la solidarité intergénérationnelle qu'engendrera une réforme des retraites profitant excessivement aux retraités au détriment des jeunes. Nous aurions, dit-elle, d'un côté les fameux boomers, entrés sur le marché du travail avant le chômage de masse, qui devaient cotiser à une époque où les retraités étaient encore très peu nombreux et qui pourront presque tabler sur une pension à taux plein. Et de l'autre, les jeunes, touchés par la précarité et la crise du logement, sans épargne ni patrimoine, qui devront justement supporter des cotisations importantes. Une vision que partage le Figaro, et oui, Noël fait de belles choses, l'Obs et le Figaro peuvent se mettre d'accord, qui rappelle que la France est l'un des seuls pays de l'OCDE où le taux de revenu moyen des retraités est bien supérieur à celui des actifs. Le Figaro qui explique d'ailleurs l'existence de ce système inégalitaire par le fait que ces retraités constituent sans conteste le plus influent lobby politique de France.
Des retraités pas si avantagés que ça sur d'autres plans, d'après une tribune du Monde ?
Oui, en fait, dans le Monde, deux médecins questionnent la pertinence de travailler plus longtemps du point de vue de la santé. Car, nous disent ces professionnels, travailler plus longtemps entraîne une hausse des arrêts maladie liée en grande partie à l'âge et au travail parfois incompatible avec l'état de santé. Une retraite tardive pour eux, c'est donc un corps qui s'abîme, de l'argent perdu et une planète qui se détériore. Car oui, pourquoi produire plus et épuiser encore davantage les ressources de la planète ? La solution préconisée par ces médecins, c'est donc faire travailler les jeunes qui autrement resteraient dans des emplois précaires et mal payés et devraient et donc conserver la solidarité qui est au fondement de notre modèle social. Des avis donc contradictoires qui auront de quoi entretenir la véhémence des débats houleux entre le fromage et la bûche.
Et autour de ces repas de fête bien français, est-ce qu'on s'intéresse aussi à la situation ailleurs dans le monde ?
Oui, et d'ailleurs en parlant d'opposition entre deux générations, le Monde Diplo revient sur le cas de l'Algérie, pays dans lequel s'opposent plus que jamais deux époques et deux mondes. Le premier, c'est celui du haut commandement de l'armée, habité par une vision archaïque et sécuritaire du pouvoir, et le second, c'est celui d'une jeunesse, ancrée dans le siècle et ouverte sur le monde. Le problème, c'est justement que ce régime autoritaire cherche à durer en dissimulant la nature militaire du régime, en édifiant un modèle clientéliste et enfin en divisant le peuple. Le Irak, lui, le mouvement de contestation, fait office de sentinelle démocratique et pourrait faire bouger les choses en réclamant des initiatives citoyennes et la fin d'un régime sclérosé. Le Monde, lui, nous livre un reportage passionnant sur Luanda, la capitale de l'Angola. La ville, autrefois, se voulait la Dubaï de l'Afrique, moderne et imposante. Le pays, deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, produisait près de 2 millions de barils par jour, mais ce sont les élites politico-militaires locales du régime du président José Eduardo dos Santos qui se sont accaparées toutes les ressources. En 4 ans, la dette nationale a doublé pour atteindre 90% du PIB, et les chantiers, palmiers et luxueuses tours de verre, qui se sont multipliés dans une ville qui fut, et oui, la capitale la plus chère du monde, sont aujourd'hui abandonnés. Le président Lourenço veut aujourd'hui assainir le pays et attirer les investisseurs, mais le chômage reste élevé, la récession est à la fois économique et sociale, et la corruption est de mise.
On pourra donc avant tout étaler notre culture le soir de Noël.
Oui, et vous pourrez même livrer à vos hôtes des actualités qui montrent, et c'est le cas de le dire, que le monde ne tourne pas rond. L'Obs, en effet, était à la 3e convention internationale des platistes. Les platistes, ce sont ceux qui croient que la Terre est plate. Au programme de cette conférence, des conférences sur les mensonges des globistes. Les globistes, ce sont ces illuminés qui croient que la Terre est ronde, mais quelle drôle d'idée, franchement. Ou des conférences sur la bataille contre Satan et les puissances du mal. L'ennemi des platistes ? Eh bien, c'est la mainstream science, colportée par les mainstream media, et également Thomas Pesquet, qui a posté une photo depuis l'espace pour dénoncer cette théorie absurde et qu'ils accusent d'être restés dans un studio de cinéma et de n'avoir jamais été dans l'espace. Des platistes qui rabâchent des chiffres dont ils sont fiers. Aux États-Unis, l'expression « flat earth » est plus recherchée sur Google que le nom « Donald Trump ». Et 16% de la population pense que la Terre n'est pas ronde. Comme cette petite fille qui, quand on lui dit que des gens pensent que la Terre est sphérique, répond avec condescendance « It's crap ». Et à tous ceux qui auraient envie de se moquer de la bêtise des Américains, on répondra que 9% des Français pensent qu'il est possible que la Terre ne soit pas sphérique.
Waouh, c'est choquant, mais j'espère que la science, elle n'est pas morte et qu'elle peut nous offrir un peu d'actu et de belles perspectives pour 2020.
Oui, et d'ailleurs, Science et Vie se propose de recenser des promesses scientifiques enthousiasmantes. Samsung, par exemple, a encouragé des recherches sur un projet d'autoroute sous-marine. Pouvant relier Londres à la Scandinavie en une heure, il fonctionnerait sur un système de tubes scellés au fond des océans, dans lesquels se trouveraient des rails supraconducteurs à lévitation magnétique. C'est ambitieux et peut-être irréaliste, mais d'autres projets devraient, eux, faire leurs preuves l'an prochain, comme celui du Qatar, qui consiste à peindre les routes en bleu pour réduire leur capacité à absorber le rayonnement solaire et donc permettre de réduire la température d'environ 7 degrés quand la température dépasse les 40 degrés. Et parce que la science est aussi des projets moins ambitieux mais tout aussi ingénieux, un cabinet de design italien a conçu un bar à jus capable d'imprimer des gobelets jetables en 3D à partir de la peau des oranges qu'il presse.
Tiens, ça pourrait être une idée de cadeau, ça, non ?
Alors, oui, pourquoi pas, mais pour des valeurs sûres, je vous conseille quand même de vous fier aux recommandations de la presse du jour. La Croix, d'abord, conseille La Source de l'amour propre. C'est un recueil des interventions publiques les plus marquantes de Toni Morrison. 43 textes percutants, souvent brefs et fulgurants, parfois surprenants et toujours érudits, tissant habilement des liens entre passé et présent, convoquant Melville ou Baldwin pour toucher du doigt l'un des cibles et parler au nom de ceux que l'on réduit trop souvent au silence. Pour votre cousin geek ensuite, Libération vous conseille « Le 0 et le 1.txt » de Jocelyne Borda, une autobiographie d'une intelligence artificielle. Et oui, c'est original. Et pour votre oncle Bourlingueur, ce sera « La jungle des océans » de Yann Urbina, un journaliste du New York Times qui, après avoir sillonné les 5 océans et une vingtaine de mers, nous livre un récit effrayant de la réalité d'un monde marin marqué par l'esclavage, les meurtres, le piratage, le pillage des ressources, la destruction d'espèces et la pollution exponentielle. On vous conseille enfin dans l'Obs le dernier livre de Lauren Groff, Floride. Un recueil de 11 nouvelles qui vous plongeront immédiatement dans l'ambiance pesante et envoûtante de la Floride d'aujourd'hui, avec ses tempêtes apocalyptiques, ses serpents qui grouillent près des habitations, sa chaleur torride et le bruyant étang des climatisations. Et avec une justesse remarquable, Lauren Groff nous dévoile autant l'atmosphère de son pays que les reliefs de l'âme humaine, sans emphase mais avec une puissance rare, dans des textes sombres toujours, aux accents apocalyptiques parfois, où le danger rôde comme des serpents à la tombée du jour. Et on est plongé avec force au cœur d'une Floride moite et angoissante, comme sous le crâne de personnages finement analysés, chahutés par des déluges quasi bibliques et par le chaos d'un monde qui n'offre aucune prise à leurs angoisses.
Mais l'angoisse, justement, c'est pas ce qui nous étreint quand on pense à l'année à venir.
Alors, intéressons-nous-y, je vais y arriver, pardon, justement, à cette année à façonner, à modeler de nos idées et de nos convictions, comme le fait l'Obs, qui titre « Ils vont faire 2020 ». Car oui, ça y est, les années 20 vont commencer. Peut-être pas de nouvelles années folles, non, mais du mouvement, ça c'est sûr. Il y a 100 ans, les suffragettes se battaient pour obtenir l'égalité citoyenne, et aujourd'hui, on dénonce toujours plus les violences sexuelles et féministes. C'est par exemple Blanche Gardin, l'humoriste au féminisme transgressif, qui fait la couverture de l'hebdo et que l'on aime pour sa verve caustique et son ironie crue et ravageuse. Les années 20 sont aussi celles des tournants politiques, élections américaines, Brexit et retraites, et de nouvelles têtes comme l'économiste Esther Duflo.
Et sur le devant de la scène, en 2020, il y aura peut-être aussi des figures un peu moins sympathiques.
Oui, et Gaspard Koenig livre un portrait acerbe de l'un d'entre eux, Mark Zuckerberg. Véritable seigneur qui règne sur 2,4 milliards de sujets, ayant abandonné toute propriété sur leurs données personnelles en signant les conditions d'utilisation de Facebook, Mark serait un empereur retranché derrière les murs de 2 mètres entourant sa villa hawaïenne. Un empereur qui veut battre monnaie, le Libra, qui édicte la norme et livre la populace aux appétits voraces des publicitaires. Et comme Auguste de son temps avait instauré la Pax Romana, l'empereur Marc fournit à ses citoyens l'outil pour s'installer dans des routines cognitives irrésistibles et sacrifier le libre arbitre sur l'autel de la paresse et de la facilité. Alors les années 20, dans un contexte de ralentissement économique, de crise environnementale et de montée de populisme, seront-elles le prélude à une grande dépression ? Eh bien n'oublions pas quand même que 1920 fut une période de création et de libération, alors gardons un peu d'espoir en s'inspirant par exemple du niveau d'exigence et de la persévérance de Teddy Riner, judoka invaincu depuis 2010, ou de la perspicacité de Glenn Albrecht, qui invente le terme de solastalgie, sentiment de détresse qui nous envahit face à la destruction de la nature et de notre territoire. Bref, il reste beaucoup à faire pour 2020.
Eh ben, on va s'inspirer de Teddy Riner pour l'année 2020. Alors, c'est ce qu'on aura retenu de la revue de presse. Bon, on va passer à l'économie, du coup.